Les différents partis et mouvements politiques tchèques avaient jusqu'à la mi-août pour déposer leur liste de candidats en vue des élections législatives organisées les 20 et 21 octobre prochains. La campagne est donc officiellement lancée. Le politologue Michel Perutino éclaire ses enjeux au micro de Pierre Maignan.
L'enjeu principal de cette élection, c'est de savoir si ANO, le mouvement ANO d'Andrei Babiš, arrivera en tête des législatives et avec quelle marge de manœuvre pour constituer un gouvernement. C'est ça l'enjeu principal ?
Bonjour, absolument, oui, c'est l'enjeu principal. En tout cas, c'est le grand problème aujourd'hui de savoir quel sera le résultat électoral de ANO et plus précisément quelle sera la position d'Andrei Babiš, notamment puisqu'on sait qu'il a quelques problèmes actuellement avec notamment avec la police, notamment dans le cas où il remporterait effectivement la victoire, quelle sera sa marge de manœuvre pour former un gouvernement et comment ce gouvernement pourra fonctionner.
Vous avez parlé de ces affaires qui touchent Andrei Babiš. Il y a notamment cette affaire de la ferme du Nid de Cigogne. Quelle influence pensez-vous que ces affaires peuvent avoir sur l'élection et sur le choix des électeurs?
C'est relativement depuis assez longtemps. Il semble en fait que ce type d'affaire n'a pas d'impact direct sur l'électorat d'Andrei Babiš. On verra alors à partir du moment où il sera poursuivi de manière plus concrète, on verra quel sera l'effet sur son électorat. Mais pour l'instant, il semblerait qu'il soit relativement préservé d'une chute dans l'opinion publique.
Et selon vous, quelles seront les principales thématiques autour desquelles vont se cristalliser les débats et peut-être justement le choix des électeurs ?
Comment va se dérouler la campagne dans les semaines à venir. Il semblerait que effectivement, la question des affaires d'Andrei Babiš, c'est essentiellement celle du Nid de Cigogne, pourrait être le sujet le plus avancé. Sinon, effectivement, on va sans doute retrouver des sujets un petit peu plus classiques, comme pour la gauche, par exemple, le niveau du SMIC, le niveau de l'influence de l'État sur l'économie. Pour la droite, ce sera sans doute plutôt la question des impôts. Enfin, on va retrouver plutôt des thématiques assez classiques, sans doute.
Et à propos d'économie, la situation est plutôt bonne, avec un taux de chômage très faible et une croissance plutôt élevée. Pourtant, au sein du gouvernement, il y a seulement le mouvement ANO qui semble profiter de cette bonne conjoncture, alors que les sociodémocrates, au contraire, n'en profitent pas. Comment vous expliquez cela ?
Un problème de communication ou de capacité de communiquer ses résultats. Quand on regarde le fonctionnement du gouvernement depuis ces dernières années, on se rend compte que, en fait, pas dans la plupart des cas, mais dans beaucoup de cas, c'est souvent la social-démocratie, éventuellement avec les démocrates chrétiens, qui ont réussi à imposer des décisions. Et ANO jouait plutôt le rôle de frein ou d'opposition interne au gouvernement. Donc le paradoxe, c'est que si on peut imputer certains bons résultats au gouvernement, ils devraient être imputés plutôt à la social-démocratie ou au groupe social-démocratie, démocratie chrétienne. Par contre, la capacité de ces deux partis et surtout de la social-démocratie de communiquer sur ces bons résultats, c'est sans doute ce qui fait défaut. Et quand on regarde en fait le fonctionnement de ANO et notamment comment ils réussissent à capter la communication, notamment par les réseaux sociaux, ils sont extrêmement professionnalisés. Et ils ont une efficacité que ne parviennent pas à obtenir les autres partis dans leur ensemble.
Parce que depuis la crise gouvernementale de la fin du printemps dernier, quand Andrei Babiš a quitté le gouvernement, la social-démocratie a changé de leadership. Ce n'est plus Bohuslav Sobotka qui est à sa tête, mais désormais Lubomír Zaorálek. Est-ce que vous pensez que la social-démocratie est en bon ordre de bataille pour affronter ces élections ?
Le changement, il a consisté à retirer Bohuslav Sobotka de la tête de liste électorale et de la tête du parti. Donc en fait, on a un binôme, Chovanec, Zaorálek, Zaorálek étant le leader électoral. Il y a toujours des cafouillages en fait. On se rend compte qu'il n'arrive pas à remonter aussi rapidement la pente qu'il le souhaiterait. Donc en bon ordre, en fait, on a vu pendant la crise que, disons, l'unité du parti était assez fragile. Donc on va voir là aussi dans les semaines à venir quelle sera la force de la social-démocratie.
Du centre droit à la droite, il y a plusieurs partis qui tentent de tirer leur épingle du jeu. À part Hanau, il y a Top 09, ODS, les Maires et Indépendants et aussi les Chrétiens-démocrates qui sont la plus petite formation de l'actuel gouvernement. Tous espèrent envoyer des députés à la Chambre. Comment vous voyez un petit peu cette lutte entre tous ces partis moyens à droite ?
Un petit peu là aussi compliqué quand on regarde les dernières semaines ou les derniers mois. On voit par exemple la Démocratie chrétienne qui a essayé de former une coalition électorale avec les Maires et les Indépendants, qui est finalement tombée à l'eau par frilosité de la Démocratie chrétienne, enfin par la peur en fait de ne pas réussir à obtenir au moins 10% nécessaires pour entrer à la Chambre basse. Pour l'instant, il semblerait que de tous les partis que vous avez nommés, c'est-à-dire les quatre formations, ce serait plutôt l'ODS qui réussirait le mieux à tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire à remonter un petit peu dans l'électorat. Par contre, on voit que Top 09, par exemple, stagne. Et la question, ce sera de voir en fait quel sera le résultat des maires qui, pour la première fois, en fait, vont dans une telle élection seuls.
Vous imaginez que le mouvement Hanau puisse faire alliance avec certains de ses partis, éventuellement, s'il remportait les élections ?
Distinguer la situation électorale ou préélectorale et la situation gouvernementale. Pour l'instant, ce qu'on entend plutôt, c'est de très fortes critiques, notamment de l'ODS, notamment de Top 09, par exemple. On verra la situation après les élections. Il est vraisemblable que tout le monde mette un petit peu d'eau dans son vin. Tout va dépendre évidemment, bien sûr, du résultat de Hanau, du rapport de force entre Hanau et ses éventuels partenaires, si Hanau remporte les élections. Donc toute une série d'incertitudes qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de discours sont extrêmement forts, extrêmement violents, extrêmement net et clair sur on ne veut pas fonctionner avec Hanau. Mais une fois que les élections seront passées et une fois qu'il faudra constituer un gouvernement, la situation va changer énormément.
De l'autre côté du spectre politique, il y a les communistes qui enregistrent toujours de bonnes intentions de vote dans les enquêtes d'opinion. Qu'est-ce qui explique selon vous cette longévité qui souvent étonne notamment les observateurs étrangers ?
Effectivement, quand on regarde ça un petit peu sur le long terme, on se souvient qu'au début des années 90, on s'attendait à voir les communistes disparaître progressivement. L'explication, pour l'instant, on n'en a pas. Il semble que les communistes parviennent, bon an, mal an, en fait, à toujours obtenir un soutien, qui est un soutien, évidemment, contre les autres partis. Il faut se rappeler, en fait, que les communistes sont le seul parti parlementaire à ne pas avoir participé au gouvernement national, bien qu'ils puissent éventuellement fonctionner dans des gouvernements régionaux ou dans des mairies. Au niveau national, il a toujours été dans l'opposition. Et cette situation est sans doute très favorable pour ce parti, et ça explique en partie cette stabilité électorale du Parti communiste.
Alors, avec la question des quotas, des travailleurs détachés, et puis aussi avec beaucoup d'articles qui parlent du désamour, parfois, que les Tchèques nourrissent à l'égard de l'Union européenne, il y a cette question de l'Union européenne qui ne semble pas, pour l'instant, animer les débats. Est-ce que vous pensez qu'elle peut être un enjeu important de cette élection ?
Moi, je dirais que c'est pas forcément un enjeu premier, mais c'est un enjeu qui revient souvent un petit peu en filigrane. J'écoutais par exemple Chovanec, donc qui est actuellement le leader de la social-démocratie, qui disait d'un côté je suis évidemment pro-européen, et puis dans la phrase suivante il disait que on ne peut pas se laisser en fait dicter par l'Union européenne toute une série de choses qui vont contre tels intérêts. Donc le paradoxe, c'est que même chez les partis où on pourrait supposer disons une capacité pro-européenne, on se rend compte que l'adhésion n'est pas forcément aussi massive qu'elle pourrait l'être dans d'autres pays. L'Union européenne, en fait, elle est toujours présente. Et je pense que même si on entend beaucoup de critiques contre l'Union européenne en République tchèque, je pense que quasiment personne, de manière réaliste, en fait, n'envisage une sortie éventuelle de l'Union européenne. Donc l'Union européenne, c'est quelque chose de présent et qui sera toujours là, en fait.
Dans beaucoup de pays, on assiste à une crise des partis sociodémocrates avec la montée en puissance de partis de gauche alternative, que ce soit Podemos en Espagne, les Insoumis en France, la reprise en main du Parti travailliste par Corbyn. Comment ça se fait, peut-être, qu'en République tchèque, on n'assiste pas à ce même scénario ?
Bah, en fait, tout simplement parce que la société tchèque n'est pas comparable ou similaire dans ses ressorts avec ces pays-là. Alors déjà, il faut distinguer par exemple les travaillistes britanniques de toutes les autres formations. Par exemple, Podemos, par exemple, les Insoumis, etc. Ça monte en quelque sorte de la société civile. Chez les Britanniques, c'est assez différent. Ici, en fait, d'une manière très générale, il y a un consensus assez clair sur le libéralisme. Et en fait, on se rend compte que, par exemple, la social-démocratie, elle est sur une ligne extrêmement, finalement, néolibérale, en tout cas comparée à d'autres pays ou comparée à d'autres formations social-démocrates dans l'Europe occidentale. Donc il y a ce phénomène-là qui vient entrer en compte. Et puis, d'une manière générale, la société tchèque, elle n'est pas très, disons, favorable à des manifestations massives contre, par exemple, l'économie de marché.
Parce que de la même façon, beaucoup de partis, notamment à gauche, ailleurs en Europe, ont intégré à leur logiciel politique l'écologie. Or, ça semble être une question qui reste en retrait sur la scène politique tchèque. Comment vous expliquez cela ?
D'une certaine manière, c'est en retrait, notamment quand on regarde le résultat du parti des Verts. Mais en même temps, on se rend compte que peu ou prou, il y a toujours certaines tendances plutôt pro-écologiques ou pro-écologistes dans différents partis, notamment chez Démocratie, qui a essayé de reprendre ce thème ou ces thèmes déjà depuis grosso modo une dizaine d'années.
Merci beaucoup, Michel Paotino, d'avoir répondu à mes questions.
Je vous en prie. Au revoir.